Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Moi, je suis assez, assez stupéfaite de la solidarité qui peut se créer autour de ces difficultés-là d'avoir un enfant. J'ai découvert la communauté sur Instagram et je vois tellement de posts et de reposts que j'ai l'impression que vous êtes toutes amies.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Alors c'est pour bientôt, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui galèrent pour faire un bébé. Moi c'est Anne Fleur, je vous parle depuis Boston et je suis la créatrice de ce podcast, je suis moi-même passée en parcours de PMA. Et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Flo. Flo nous parle de la région de Brest et le parcours de Flo est un peu différent des parcours qu'on a l'habitude d'entendre sur ce podcast puisque Flo est à l'aube de son parcours de PMA. En janvier dernier, après 2 ans d'essais infructueux avec son copain, elle décide de consulter son gynéco. Après une multitude de tests chez elle comme chez son chéri, le verdict tombe et malheureusement, son copain souffre de tératospermie. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Flo nous raconte ses doutes, ses peurs les plus profondes quant au début, au commencement de ce protocole, quant à la solidité de son couple face à cette nouvelle épreuve. Elle nous parle aussi de culpabilité au sein du couple. Comment finalement gérer le fait que c'est la femme qui va devoir subir tous ces traitements alors que ce n'est pas elle qui est infertile biologiquement. Et souvenez-vous, c'était pas forcément il y a si longtemps, mais on est toutes passées par là. Un épisode qui, je pense, sera super utile à des futures pémettes ou des futurs couples en début de parcours, mais aussi à nous toutes qui sommes passées par là, se souvenir un petit peu d'où on est parti. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec ma conversation avec Flo. Bonne écoute. Bonjour Flo et bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup de te joindre à moi ce matin pour nous raconter ton histoire. Comment vas-tu?
Ça va très bien, il fait beau aujourd'hui. Je viens d'avoir mes parents qui m'ont dit qu'en Sarthe, il faisait tout gris, il pleut. Donc on est bien content pour une fois, il fasse beau en Bretagne.
Non, mais comment ça pour une fois? Attends, tu parles à une bretonne fière de l'être. Il fait très très beau en Bretagne, surtout en Brest.
On a un très beau mois d'août, ça va. L'été est super et le confinement était plus qu'ensoleillé. On a pris des coups de soleil, donc franchement, on était gâtés. Ouais.
Alors, écoute, on s'est rencontrés toutes les deux en plus sur Instagram, où tu as découvert donc le podcast relativement récemment, puisque tu es, on va revenir là-dessus, en début de parcours, enfin en tout cas tu es en début de cheminement. Est-ce que tu peux te présenter, me dire un petit peu voilà, je sais pas qui tu es.
Je m'appelle Flo, j'habite à côté de Brest. J'ai suivi mon copain en fait pour arriver à Brest. Je suis originaire des Côtes d'Armor et j'ai fait mes études plutôt du côté de Rennes. J'ai un master de prof, donc je suis prof à Brest. Voilà, je suis avec mon copain depuis 6 ans presque et effectivement on est en début de procédure, enfin de cheminement, puisque donc là ça fera 2 ans qu'on s'est installé dans notre maison qu'on a acheté et depuis 2 ans du coup je suis plus sous pilule, donc on attend mais c'est un peu long, donc là depuis janvier on a commencé des examens pour voir un petit peu ce qui se passait. Et en fait, le problème viendrait de mon compagnon. Donc là, on est au stade où on a fait tous les examens possibles et il faudra en refaire un pour lui pour qu'on soit sûr de ce qui se passe.
Par curiosité, tu vois, genre comment est-ce que voilà l'envie de bébé est arrivée? Si elle est arrivée chez vous au même moment, on n'est pas toujours synchro hein, là-dessus au sein du couple. Comment ça s'est passé?
Eh ben, on va dire que moi j'ai des grands, je suis la petite dernière de ma famille. Du coup, j'ai des neveux et nièces. Et puis, en voyant mes copines tomber enceintes, en côtoyant aussi mes neveux et nièces, ben du coup j'avais cette envie qui commençait à monter en moi. Certainement que c'est quelque chose que j'avais avant lui. En fait, quand je suis partie un an à l'étranger il y a 2 ans, je suis revenue du coup en juillet 2017, donc ça va faire 3 ans en fait. Et pendant toute l'année où j'étais à l'étranger, c'est vrai qu'on parlait beaucoup de ça, le fait que d'être éloignée, ça nous a presque rapprochés là-dessus. On était persuadés qu'on était vraiment très très amoureux et très, enfin, fait pour être ensemble. Et du coup, on a cheminé ce projet chacun de notre côté. Bon, lui, il est issu de parents divorcés. Il a une petite sœur, mais avec qui il est pas super proche. Mmh. Et il a pas de neveux nièces. Il a pas énormément d'enfants autour de lui. Mais on a un couple d'amis qui a eu un bébé il y a un an et demi. Et donc c'est vrai que avoir tous les amis, avoir des enfants au fur et à mesure, là on a à l'approche de la trentaine, oui. on a cette envie qui monte et d'autant plus que ma sœur aussi entre-temps, ma grande sœur qui a 9 ans de plus a eu un troisième au mois de février, donc ça fait long quoi. C'est vrai que ouais. quand on voit sa grande sœur qui a 39 ans et qui a un troisième enfant et nous toujours pas presque 30 ans, on se dit mince, il serait temps que je m'y mette. on va dire que moi j'ai arrêté la pilule, mais j'attends de voir. Enfin, on n'avait pas non plus, on n'était pas si pressé que ça. Et puis on a passé une année un peu difficile avec des hauts et des bas.
Qui marchait pas, tu veux dire?
Ouais, il y avait ça, et puis lui, ça lui a fait se poser beaucoup plus de questions que moi au niveau familial. Il a un passé un peu compliqué en fait, il est pas super proche de son papa. Et ils s'entendent très bien, mais ils sont pas complices. Et à l'inverse, moi j'ai une famille qui est très aimante et surprotectrice, des parents ultra protecteurs, qui par exemple trouvent dur si je les appelle pas une fois par semaine au moins. Je suis pas du fusionnel avec mes parents. Au contraire, il y a beaucoup de tabous, mais on est quand même très proches et je vais avoir besoin de les appeler comme eux auront besoin de m'appeler si au bout de quelques jours, quelques semaines, ils ont toujours pas de nouvelles ou que je réponds à peine au texto quoi. Donc à l'inverse, lui il est plus indépendant.
Ouais, des modèles familiaux un peu différents quoi.
Ouais, carrément, avec des années de différence aussi. Ouais. Par exemple, ses grands-parents ont l'âge de mes parents.
D'accord.
Qui creuse énormément, il y a un énorme fossé générationnel, quoi.
Bien sûr.
Et donc on a, moi j'ai vachement sympathisé avec des amis de ses parents, qui ont donc une cinquantaine d'années, alors que, du côté de mes parents, ils ont tous 70 et plus, donc c'est pas du tout la même génération, c'est pas du tout la même mentalité, c'est pas du tout les mêmes façons de voir. Sans doute la parentalité non plus.
Ouais.
Et du coup, pour revenir comment à la famille, enfin à la volonté de créer une famille, ça crée aussi des attentes des deux côtés de nos parents. La maman de mon copain l'a eu à 20 ans. Moi, elle m'a eu à 38, 39 ans. Donc, elle s'attendait à être jeune grand-mère et puis pareil, elle se dit mince, pourquoi ça vient pas. Et ma mère pose pas de questions, donc de ce côté-là, je suis plutôt tranquille.
D'accord.
Il y a pas du tout de charge mentale familiale à ce niveau-là. C'est moi qui me mets des charges, quoi. Je me mets des des objectifs. J'avais l'objectif sans doute d'avoir un enfant avant 30 ans.
Comment c'était, enfin comment tu penses que c'est arrivé justement cette
Ah, ça c'est ma sœur qui a eu son premier à 28 ans.
Contrainte que tu t'es mise, ouais.
Ma sœur a eu sa plus grande à 28 ans. Sans doute que ça fait 15 ans que je m'imagine à 30 ans en tout cas avoir un enfant. J'ai une copine, une de mes meilleures amies qui a eu un bébé il y a un an et voilà, tout ça, ça fait cogiter, ouais, aussi.
Ça continue à te faire réfléchir, bien sûr, d'accord. Et alors, donc vous, du coup, vous essayez, donc si j'ai compris, enfin vous essayez sans vous mettre la pression, comme tu dis, t'as arrêté la contraception depuis 2 ans. Comment, à quel moment en fait vous avez dit bon bah peut-être que, enfin, comment est-ce que vous vivez en fait cette attente l'un et l'autre et peut-être au sein de votre couple, est-ce que vous en discutez tous les deux et puis à quel moment est-ce que vous vous dites bon peut-être qu'il faut qu'on aille voir un médecin pour avoir un petit coup de main.
Alors moi j'ai laissé les mois courir tout en surveillant mes cycles. J'ai installé l'application Flow parce que je me disais que ça pouvait m'aider aussi. J'ai jamais été hyper régulière, enfin jour pour jour, je vais dire. Et du coup, j'ai jamais calculé du tout mes dates d'ovulation, de règles et tout ça. J'ai découvert ça. D'ailleurs, j'ai découvert les cycles et le propre fonctionnement de la femme grâce à cette envie d'avoir un enfant. Lui, je l'ai laissé, on va dire un an. Mener son affaire, en fait il y a une affaire en justice, donc il allait pas bien, il était perturbé. Je me disais que le psy allait jouer énormément, donc comme lui n'allait pas bien, au fond de moi je savais que ça pouvait pas marcher. Et puis là depuis on va dire depuis novembre décembre ça va mieux. On s'est ressoudé aussi, on passe des moments un peu plus tranquilles. Et du coup, bah moi je me suis dit bon, là ça fait un an et demi, je pense que le déclic a été 2020, quoi, janvier 2020. Allez, on attaque une nouvelle année, on prend les taureaux par les cornes, on va voir si tout va bien.
Vous aviez peur d'aller consulter ou pas particulièrement?
Non. C'était non. Lui peut-être.
C'était juste.
Lui peut-être.
Ouais.
Je pense qu'au fond de lui, il redoutait d'avoir un souci. Moi, au final, je l'ai pris assez sereinement. Je me suis dit bon bah, on va voir au moins médicalement si tout va bien, et puis on sera rassuré si tout va bien.
Ouais. Ça permettra d'avancer, ouais, quoi.
Donc, il m'a accompagnée chez le gynéco fin janvier. On nous a prescrit des analyses de sang, donc pour détecter un petit peu les taux hormonaux des deux côtés. Et puis moi j'ai fait un examen d'utérus pour savoir si tout allait bien aussi, et les examens, les prises de sang aussi pour détecter les MST des deux côtés, et lui ben un spermogramme, donc qu'il a mis du temps à faire, donc c'est pour ça que je te dis, je pense que il y avait une appréhension certainement de son côté.
Ouais. Vous faites tout ça auprès de ton gynéco ou vous rendez à un centre de PMA? Comment est-ce que, enfin, auprès de quel professionnel vous vous adressez en premier lieu?
Une clinique, c'est la clinique de Brest qui où je consulte mon gynéco, qui donc c'est le gynéco qui nous a prescrit ces examens-là.
D'accord.
Et le spermogramme a été fait aussi à la clinique, comme mon examen d'utérus, pour savoir si pour rester aussi dans le même lieu.
Terme, tout allait bien, quoi.
Voilà. Et c'est d'ailleurs maintenant que le diagnostic commence à être posé, que je me demande s'il vaut mieux pas que j'aille au CHU, puisqu'il y a deux centres AMP à Brest. Je sais pas. J'en ai discuté avec ma médecin généraliste pour qu'elle me donne son avis. Elle-même a été aux urgences. Elle a été interne aux urgences pendant des années dans cette clinique. Donc elle connaît mon gynéco aussi, et elle m'a dit que c'était une question de feeling. Elle m'a dit vous allez voir, vous allez prendre rendez-vous déjà pour, vous allez faire un premier rendez-vous avec un médecin au centre AMP ou à la clinique sans doute. Et puis si ça passe pas, vous changez. C'est pas pas un souci. Il faut vraiment être dans un état d'esprit serein. Il faut faire confiance aux professionnels qui nous accompagnent. Ça, c'est clair. Donc, c'est vrai que sur ça, je vais me faire confiance. On verra si la tête du médecin, du spécialiste nous revient pas, on changera, on verra bien ce que ça donne. Ouais. En sachant qu'ils ont à peu près les mêmes taux de réussite. Donc,
le CHU a
un peu des meilleurs taux. En fait, c'est grâce à ton podcast que j'ai découvert le centre du CHU.
Puisque c'est vrai.
J'ai écouté les médecins que tu as interviewés. Et du coup, c'est là que je me suis posé la question. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas que j'aille aussi dans le public? Moi, je suis quelqu'un qui défend fondamentalement la fonction publique et donc c'est un peu pour ça aussi que je me pose la question. J'ai envie de
Moi, si je peux me permettre de donner un micro conseil, c'est il faut que tu aies confiance en fait en les personnes avec qui tu interagis et que tu te sentes écoutée. Enfin, s'il y a un truc que le podcast m'a appris, je pense que c'est ça. c'est ce que tout le monde dit et finalement, tu vois, des fois, les choses sont un petit peu bloquées et quand la personne change, on a toujours peur un peu de changer de centre parce qu'on va découvrir de nouvelles personnes, etc. Ça leur fait beaucoup de bien à plusieurs points. Après, si toi, tu te sens écouté, tu vois, par les médecins là où t'es en clinique et que t'as l'impression qu'ils gèrent, moi, je n'irai pas changer. Hein. Enfin, tu vois, voilà. Donc, écoute-toi, en tout cas, je te dirais. C'est ça que je te recommanderais.
Ça marche.
Alors donc du coup donc toi tous les examens reviennent nickel de ton côté, c'est ça?
Ouais.
Et donc ton copain ne veut pas trop aller faire le spermogramme, il finit par le faire, il a mis combien de temps à aller le faire alors?
En fait, on va dire qu'il y a eu le confinement au milieu et que du coup ça a aussi retardé.
Ça ralentit.
Moi j'ai fait mon examen de l'utérus, j'arrive pas à trouver le mot.
Hystérosalpingographie.
je bafouille à chaque fois. Je l'ai fait juste avant le confinement, la semaine début mars. Et
d'accord.
J'ai eu les résultats dans la foulée assez rapidement. Et, et lui devait le faire en sachant qu'il a fait ses prises de sang immédiatement après le gynéco. Donc il a quand même mis un bon mois et demi avant de se mettre en marche, de prendre rendez-vous pour faire le spermogramme. Donc je pense qu'il y avait quand même une appréhension. Donc après ça, il y a eu le confinement, ça veut dire qu'on n'a pas du tout voulu aller à l'hôpital pour un examen qui en soi n'est pas urgent avant le mois de juin. Donc en juin, il a fallu que je lui en reparle pour le convaincre de le faire rapidement. Enfin voilà, avant l'été pour qu'on soit aussi fixé et que ça avance quoi, parce que moi ça me travaillait quand même. Et en fait, il a pris rendez-vous. En fait, il était en arrêt maladie lui-même. Il était, il a une hernie discale et donc, du coup, il pouvait pas trop bouger. De toute façon, en février, il était vraiment coincé. D'accord. Et tout. Donc, il y avait des circonstances atténuantes. donc, il a repris le travail début juillet au 1er juillet. Et pour te dire, il a fait l'examen le 30 juin. Vraiment,
avant
de prendre le travail.
Alors, les résultats, ça met combien de temps à avoir les résultats d'un spermogramme?
Une dizaine de jours.
Ouais, quand même.
Moi, je suis partie à Lyon la première semaine des vacances scolaires, donc la semaine du 6 juillet, et il a dû les avoir le 8 juillet. Donc, ouais, une dizaine
d'accord.
de jours. Et il les a reçus par mail avec un code personnel et tout ça, qu'il m'a pas transmis. Donc il m'a dit qu'il avait les résultats, mais je vais pas poser 10 000 questions. On s'est dit bon, on en reparlera quand je rentrerai. Je suis rentrée le dimanche et je lui ai reposé la question. Il m'a pas tout de suite montré non plus le résultat parce que il savait que c'était que c'était pas très bon. Et finalement, il m'a donné le code, il m'a en fait transféré le mail, donc j'ai pu aller voir moi-même. Et quand j'ai vu donc 100% atypique, les spermatozoïdes sont en bonne forme, ils sont mobiles, ils sont nombreux. À ce niveau-là, il n'y a pas trop de soucis. Mais le seul problème, c'est au niveau de la forme de la tête. Et donc, du coup, c'était bien écrit noir sur blanc, 100% atypique, et c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Donc, j'ai...
Tu sais vraiment ce que ça veut dire à ce moment-là?
Non, je me suis doutée, atypique, ça veut... Enfin, c'est quand même négatif. Quoi.
Ouais. Donc, ouais, c'est ça, mais tu t'es pas forcément... D'accord.
J'ai pas compris tout de suite, donc... J'ai pris rendez-vous assez vite, dès le lendemain, avec mon gynéco. Il y avait une dizaine de jours d'attente, donc en fait, j'ai ruminé pendant ces 10 jours et j'ai eu le temps d'aller sur tous les forums possibles sur le sujet. Et quand, du coup, j'ai trouvé le nom de cette particularité, donc c'est la tératospermie, coup, j'ai réussi à trouver des sites spécialisés, à voir que c'était quelque chose qui arrivait, qui pouvait être il peut y avoir plusieurs facteurs en cause, mais ça c'était aussi quelque chose de génétique, on va dire. C'est pas, on n'en sait rien en fait, on connaît pas toutes les causes de ces malformations. Donc toujours est-il que j'avais quand même, je pense, de l'espoir. Enfin, je voulais pas, je me voilais un peu la face, sans doute. Donc, jusqu'au rendez-vous avec le gynéco, je me dis bon, ils sont moches, mais peut-être que ça peut marcher quand même. Je suis pas du tout allée voir des sites sur la FIV et tout ça. Je pense que j'étais pas prête. Et ouais. Et quand le gynéco nous a accueillis, du coup, on a toujours des soucis de Covid et tout ça, donc tu vois, prise de température. Ouais. Enfin, c'est dans un milieu. Lui, mon copain est assez angoissé de nature et il aime pas du tout le milieu hospitalier. Donc, du coup, ça l'a pas mis dans une position très confortable dès le départ. Bon, on a passé les 5 premières minutes à se demander si ça allait, si avec le Covid il n'y avait pas eu de soucis et tout ça. Il est plutôt plutôt à l'aise et plutôt rassurant, ce gynéco. Donc je me sens bien avec lui.
Ouais.
Il nous a ensuite pris tous les examens qu'il avait. Il avait plein de trucs dans son dossier, dont des résultats d'examens que j'avais fait il y a longtemps et qui m'avait toujours pas donné. Donc du coup on a fait le bilan général, on a refait un point sur mon bilan avant d'attaquer le bilan de mon copain pour arriver au plus difficile à la fin. Et donc du coup il nous a tout de suite parlé de FIV et même, je vais dire, de FIV XI, parce que du coup il y a quand même 100% d'atypique, donc on sait pas trop si on pourra faire une insémination classique. Enfin, il voulait pas trop se positionner, ce gynéco. Ouais. Il est pas spécialiste et il se sent pas capable de nous conseiller, de bien nous conseiller. Donc il va tout de suite donner le nom d'un confrère et il nous a aussi conseillé de faire un deuxième spermogramme pour être sûr du résultat.
Ouais.
En sachant que pour lui la génétique n'est pas encore au point et que, enfin, la biologie, je veux dire, recèle encore des mystères et du coup il voulait pas se lancer sur des pistes sur les causes, sur les traitements possibles, enfin sur les façons de faire un enfant, si c'était possible de faire un enfant quand même naturellement, même avec autant de spermatozoïdes atypiques. Donc ouais. Il nous a en fait fait un panel de tout ce qui pouvait exister en procédure AMP pour pour qu'on comprenne mieux, qu'on soit informé. Ça a été un flot d'informations assez violent. J'ai pas du tout pleuré, ouais, ni sur place ni pendant plusieurs jours. J'ai pas pleuré depuis un mois. J'ai pas pleuré comme j'aurais pu le faire. Je suis assez sensible et je m'attendais à être plus plus touchée. Je crois que je suis dans une démarche assez sereine parce que je me dis de toute façon il y a des solutions. Enfin, c'est pas si grave quoi. On peut maintenant faire des enfants autrement et c'est comme ça. Ce qui est plus difficile à accepter, c'est de penser que en fait c'est des choses quand même. Enfin, c'est quelque chose qui a pu être aggravé par des consommations d'alcool, de drogue. Que j'ai pas eu. Le problème vient de lui, mais ça a été aussi aggravé par ses consommations. Et donc d'un côté c'est bien parce que ça nous permet de discuter de ça, de faire le point sur sur ses habitudes, qu'il a plus en fait, parce que du coup il s'est quand même rendu compte avec ses crises d'angoisse que c'était pas bon pour lui. Sur l'avenir de notre couple aussi, parce qu'on est assez soudés, mais il y a eu des hauts et des bas depuis 6 ans. Il y a eu des difficultés à cause de ces consommations d'alcool là. Et donc je me dis ça se trouve ça aurait pas été aussi catastrophique si s'il avait pas autant abusé quoi. Donc mais de son côté c'est pareil, il se sent coupable pendant les 10 jours.
Ouais, ce que j'avais demandé, comment il vit tout ça, ouais.
Assez mal. Il rumine beaucoup. Moi, je rumine aussi. Donc, on essaye de communiquer le maximum possible. Moi, je me force à en parler quand ça va pas. De toute façon, il voit très bien quand ça va pas. J'ai du mal à dire ce qui va pas tout de suite. Je mets quelques heures parfois à sortir ce qu'il y a dans ce que j'ai dans le ventre. Mais une fois que ça sort, après, c'est vrai que ça fait du bien de pouvoir tout dire et de pouvoir lui montrer aussi que je lui fais confiance et que je lui dis ça et que ça me fait du mal de lui dire, mais bon, en lui disant, ça nous libère tous les deux, quoi. Donc il y a une relation de confiance depuis toujours qui est en train de se développer encore plus avec cette histoire parce qu'il a peur de me perdre et moi-même je me pose des questions, donc du coup le fait de lui dire ce qui me pose problème, ce que j'ai en tête, ça libère la parole et ça nous met sur la même longueur d'onde, ça nous permet d'aller dans la même direction et de savoir ce que l'autre attend de l'autre aussi quoi. Et s'il était pas
ça nous force à avoir des conversations pas faciles hein.
Ouais, s'il était pire que moi, s'il communiquait encore moins que moi, je pense que ça aurait pas tenu aussi longtemps en fait, parce que on est quelqu'un d'angoissés tous les deux et on est des personnes qui nous, enfin, on se pose 36 000 questions, quoi, de notre côté. Le fait de pas en parler, ça nous met dans une position, on est encore plus mal, en fait, on rumine, et on se dit, non, je vais pas l'embêter, je vais pas lui dire ça parce que ça va lui faire du mal, et au final, on est encore plus soudés.
Ça reste sur ton cœur, bien sûr. Tu me disais, quand on préparait cet épisode, tu te demandes en fait si vous serez justement assez fort pour affronter un parcours de PMA. Est-ce que tu penses que ça peut remettre en question en fait votre couple ?
Moi, ça me pose question parce que ça lui demande beaucoup d'efforts. Enfin, il va devoir, par exemple, arrêter de fumer, réduire sa consommation d'alcool. Il est loin d'être alcoolique. Il a comme une consommation excessive en soirée, on va dire, qui le rend mal, et donc c'est ça qui me posait souci. Donc le fait qu'il fasse des crises d'angoisse après avoir passé des soirées un peu trop alcoolisées, je me disais, mais c'est pas possible, il peut pas se contrôler quoi, il peut pas passer une soirée sans alcool, ça me
c'est dur.
Je comprenais pas. Donc il y a 3 ans, quand je suis revenue de l'étranger, j'ai passé un été catastrophique parce que je rentrais chez moi, et même si je l'aimais profondément et qu'on s'était promis de belles choses, Le retour à la réalité a été dur. Et puis aussi parce qu'il avait rencontré des nouveaux voisins avec qui il avait vachement sympathisé, et des gens, des amis qui sont aussi fêtards que lui. Et donc, j'étais plus du tout en phase avec lui, quoi, quand je suis rentrée en Bretagne. Donc, sur ça, j'avais aussi des angoisses liées à ma vie professionnelle. J'avais pas de travail. J'arrivais pas à voir ce que l'avenir me promettait, j'ai fait une crise psychosomatique, clairement, parce que j'ai fait une crise d'appendicite en septembre 2017.
Ah ouais. Ok.
Et l'appendicite à plus de 25 ans, ça fait mal.
Ouais.
Et en fait, on sait toujours pas si vraiment on m'a enlevé l'appendice ou pas, parce que l'hôpital où je suis allée, les urgences, c'est pas le meilleur hôpital du coin, et donc du coup je suis pas allée à Brest, et donc du coup ils ont mis longtemps à m'opérer, à savoir si vraiment, enfin ils voyaient pas l'appendice, en fait j'ai fait des tas d'examens, ils voyaient pas l'appendice, donc ils savaient pas si c'était vraiment l'appendicite. Toujours est-il que j'ai quand même été opérée, donc 15 jours à l'hôpital, enfin une dizaine de jours à l'hôpital. Je suis rentrée chez moi et j'ai eu des complications. Donc du coup, j'ai passé presque un mois, le mois de septembre, à l'hôpital. Et avec beaucoup de questions en tête sur notre relation amoureuse. Et il est pas venu me voir, il est venu me voir une fois à l'hôpital. Donc je me suis dit, mince, on s'est fait des promesses à distance, et en fait, c'est pas du tout le gars que j'aime et que je voulais retrouver. Mmh. Donc j'ai discuté de ça avec ma mère. Ma mère a pris évidemment ma défense et l'a enfoncée comme tout parent ferait, je pense. Donc ça m'a mise encore plus mal, parce que du coup je voyais plus du tout clair. Mmh. On a mis on va dire 6 mois à reconsolider notre couple, et puis finalement, c'était la maison qui allait pas, c'était les voisins qui allaient pas, c'était finalement j'ai trouvé un travail aussi. Donc donc tout s'est arrangé au fur et à mesure, et on a acheté une maison donc un an plus tard, ce qui nous a permis d'aller dans la même direction et de retrouver notre complicité qu'on avait avant. Et en fait, j'en discutais avec une copine il y a un petit mois. Le fait de faire le deuil d'une relation, d'une jeune relation, on va dire, quand on s'est rencontrés, on avait 25 ans, moi j'étais encore en études, on était jeunes, beaux, frais, passionnés, et faire le deuil de la passion telle qu'elle était il y a 4 ans, c'est dur, quoi. Du coup, on a aussi vu en janvier dernier, c'était au même moment que la consultation avec le gynéco, on a vu un psychothérapeute du couple pour discuter de ça, et ça nous a permis de nous recentrer aussi sur notre couple et de voir que finalement tout n'allait pas si mal, et que on était amoureux, toujours amoureux, et qu'on voulait faire des efforts pour l'autre, quoi. Donc aujourd'hui moi je me pose des questions parce que j'ai envie de croire à l'amour éternel, mais que c'est compliqué, qu'il faut entretenir cet amour là Et puis pour revenir aux efforts qu'on doit faire chacun de notre côté, lui devra sans doute faire des efforts pour réduire ses consommations, mais moi je sais pas si je suis prête à faire autant d'efforts, des piqûres et tout ça, pour faire un enfant, quoi.
Tu dirais que c'est une de tes plus grandes peur, finalement, l'aube de ce parcours qui s'annonce devant vous? En plus, on vous a annoncé une FIV, c'est ces traitements, c'est la lourdeur des traitements pour toi que tu vas devoir subir.
Affronter des traitements quand on n'est pas infertile, en fait, c'est dur, quoi. C'est
une
d'autant plus belle preuve d'amour pour l'autre, mais c'est quand même remettre en question une façon de faire un enfant et de voir la vie, enfin de
bien sûr
de se dire que on est obligé de faire appel à la médecine alors que avec lui alors qu'avec un autre ça aurait pu être beaucoup plus facile et rapide. Ça te fait te demander est-ce que je l'aime vraiment, est-ce que je suis prête à faire autant de sacrifices entre guillemets pour lui, pour nous, pour le couple,
c'est
pour faire des enfants.
Hyper précieux ce que tu nous dis aujourd'hui, Flo, parce que vraiment c'est, tu vois, les invités qui viennent sur le podcast sont déjà soit en parcours, soit ont fini leur parcours, qu'ils se soient soldés ou non d'ailleurs par un bébé. Mais du coup, en fait, les questions que tu te poses, en fait, beaucoup de gens sont passés par là et ont énormément de mal, du coup, en fait, à remettre des mots sur ce que tu vis. Et je pense vraiment que ça sera super utile. Vraiment, je te dis un grand merci à d'autres personnes qui vont se lancer dans leur parcours. Une autre question que je voulais te poser, du coup, donc tu disais vous êtes préparé un petit peu, je dirais, en tant que couple, en faisant une thérapie de couple. Est-ce que tu me disais que toi aussi, tu as entamé un suivi psy en personnel aussi pour te préparer à tout ça?
Alors lui a il a un psy en fait depuis longtemps par rapport à ses problèmes personnels. Et moi, j'ai jamais tenté le coup. Je sais que j'ai des parents donc je disais qui sont très aimants et très affectueux et hyper protecteurs. Mais malgré tout, on a beaucoup de tabous dans notre famille. Le fait que je sois aussi la petite dernière ne m'a paradoxalement pas forcément aidée parce que du coup, j'avais pas non plus de frères et sœurs à qui me confier énormément.
Ouais,
j'avais des parents, des vieux parents. Il y avait un écart de génération qui fait qu'ils auraient pas forcément compris non plus mes doutes d'adolescente. J'ai pas fait une crise d'ado très virulente. En fait, j'ai fait ma crise d'ado à 20 ans quand je suis partie en Sicile. J'ai habité un an en Sicile. Et voilà, j'ai coupé les ponts, on va dire. Je me suis largement éloignée, mais à 20 ans seulement. Et j'ai des périodes comme ça où ma mère va m'agacer énormément parce qu'elle est étouffante, mais avec nous trois, hein, de toute façon, elle est trop aimante, quoi. Ils ont pas beaucoup d'amis, donc du coup, ils reportent tout sur nous.
Ouais.
Donc, je sais que j'ai beaucoup d'angoisse liée à ça. Même je pense des angoisses de future maman parce que je sais pas comment je serai, j'ai peur d'être aussi étouffante. Et je connais pas bien non plus la vie de couple de mes parents, la vie intime. Alors y a pas non plus 10 000 parents hein, qui se confient sur leur vie intime, mais je pense que c'est nécessaire en fait. Je pense que les enfants ont besoin de savoir comment leurs parents se sont construits, comment ils se sont aimés. Quand je vois comment ils s'aiment aujourd'hui, je me dis, mais comment ils sont plus... Comment ça... Enfin, ça fait 45 ans qu'ils sont mariés. Je me dis, comment ils font pour toujours être ensemble, quoi, alors qu'ils se détestent. Enfin, ils se pouillent en permanence, comme un vieux couple. Et donc, je sais qu'il faudrait que j'aille voir un psy, mais j'arrive pas à y aller. Et là, du coup, j'ai vu mon médecin généraliste en début de semaine et du coup elle m'a conseillé une confrère ici, donc du coup je vais pouvoir discuter de ça avec quelqu'un de neutre.
C'est une super idée.
Ce qui m'aidera sans doute aussi à faire le point sur ma famille, mes envies de grossesse.
Et ta définition du couple aussi finalement.
Ouais, voilà. Ouais, ma généraliste a suivi tout mon processus de procréation, enfin de volonté de procréer. Donc elle sait que ça me travaille beaucoup. Et et là j'ai eu l'occasion de lui dire un peu plus précisément pourquoi ça, enfin ce qui m'empêchait aussi de voir très positivement notre avenir de couple, parce que C'est pas quelque chose dont on a envie forcément de parler avec sa généraliste. On parle de soi quand on va chez son médecin, mais pas forcément de son couple. Sauf si vraiment il y a des gros problèmes. Et donc elle m'a dit, une psy, ça pourrait aussi vous aider à faire le point sur sur pourquoi vous avez envie, pourquoi vous êtes toujours amoureuse de quelqu'un qui vous fait souffrir au fond, parce que parce que il y a toujours des moments, ça fait 6 ans qu'on est ensemble, ça fait 6 ans que il y a des hauts et des bas, plus souvent à cause de lui qu'à cause de moi, quoi. Et donc elle me dit, ça se trouve vous avez besoin de réparer quelque chose, il y a quelque chose d'ancré en vous qui fait que ça vous tient à cœur de pouvoir aider votre partenaire, et c'est pour ça que vous êtes tellement accroché à l'autre aussi. Une thérapie pourrait effectivement me faire voir un peu plus clair sur tout ça.
Bien sûr, et avant de te lancer, je pense que c'est une super idée, effectivement. Est-ce que tu as partagé vos difficultés, justement, tu disais, je sais pas, avec vos parents, avec vos amis ou au boulot? Est-ce que vous avez partagé avec qui que ce soit?
Lui, non. Les difficultés d'ordre général, c'est-à-dire... on n'arrive pas à avoir un enfant, ça fait 2 ans qu'on essaye. En gros, enfin, je pense que lui... il présente ça très très largement, enfin sans rentrer dans les détails, à ses copains. Il en a jamais parlé à sa mère devant moi, donc je sais même pas si sa mère le sait vraiment. C'est pas à moi d'aller lui en parler, enfin d'en parler à ma belle-mère, je veux dire. Je trouve que c'est à lui de se confier là-dessus. Quant à moi, je suis rentrée beaucoup plus dans les détails. J'ai 3 ou 4 copines qui savent à peu près tout. parce que c'est ma bouée de secours, en fait. Je peux pas me confier à mes parents, j'y arrive pas, je peux pas. J'en ai parlé à mon frère parce que mon frère, donc j'ai un frère, une sœur, mon frère a 5 ans de plus et c'est mon pilier aussi, c'est quelqu'un à qui je ressemble beaucoup et donc ça me tenait à cœur de lui en parler. J'en ai parlé à ma sœur parce que il y a un mois de ça, ça allait moi-même. Le confinement a été compliqué en fait avec mon copain. Et donc du coup, je sais plus, c'était en juin, je suis allée en pleurs chez ma sœur et donc du coup, elle savait que ça allait pas trop, donc j'ai tout balancé. Et là, pour faire suite à ce dont je lui avais parlé en juin, je lui ai aussi dit qu'il y avait un souci médical et qu'il faudrait certainement qu'on envisage une fille. Donc j'ai le soutien de mes proches, sauf de mes parents parce que je suis pas encore prête à leur en parler. Je le ferai quand on sera dans une démarche
quand tu seras
d'AMP,
prête
que ce sera concret en fait.
Bien
là
sûr.
Pour l'instant c'est pas concret. Et lui, je pense qu'il aura du mal à en parler. En plus c'est vrai que ça met certainement aussi leur virilité en cause hein, quand le problème d'infertilité vient de l'homme. Ils se disent je peux pas faire d'enfant, je suis presque impuissant finalement quoi. Il y a cette notion là qui est toute proche et ils ont certainement plus de mal à en parler. Je sais pas, je me rends pas trop compte. Par contre, je sais que ça me posera un problème si il en parle vraiment à personne.
T'as besoin qu'il extériorise en dehors de votre couple aussi.
Et j'ai envie que le dialogue soit rompu, qu'il y ait du dialogue, je veux dire que évidemment que tout le monde le sache, c'est pas non plus envisageable, mais que ses parents le sachent, que au moins sa maman quoi soit au courant de ça, et quelques amis, des amis très proches, parce que j'aurais forcément envie d'en parler à des soirées, enfin c'est quelque chose qui est tellement
Ouais, qui est fort, qui est important, bien sûr.
Ouais, ça peut créer des tabous si lui n'en parle à personne.
Mmh.
Donc on verra. Je nous laisse jusqu'à décembre.
Ouais, que vous fassiez chacun votre cheminement à votre rythme aussi, ouais. Bien sûr.
Ouais.
Pour finir, j'aimerais bien te poser une petite question. Tu sais, il y a énormément de personnes qui viennent donc sur le podcast et puis qui nous parlent de bourdes, tu vois, si je puis dire, de leur entourage, de leur famille, de leurs amis, de leurs collègues, quant à leur parcours pour devenir parent, qui parcours qui donc est un peu chaotique par essence, puisque sinon on se parlerait pas. Du coup, je me demande en fait, est-ce que tu as une idée de là tout de suite, si ta sœur justement t'écoute, si la maman de ton copain écoute ce podcast, de quelle manière est-ce que tu aimerais être soutenue? Est-ce que, je sais pas, c'est des petits messages? Est-ce que c'est des moments? Est-ce que c'est juste qu'on t'écoute? Est-ce que tu as une idée un peu de comment on pourrait t'aider justement dans ces moments-là?
En fait, c'est difficile parce que, je sais pas si c'est personnel ou pas, mais je ressens des besoins très très forts à certains moments de me confier, de parler, de pleurer et tout ça. Et pendant des jours, je vais avoir aucun besoin d'en parler, et au contraire, je vais pas vouloir en parler. Et du coup, c'est difficile pour l'autre aussi de savoir, y compris pour dans notre couple en fait, de savoir si je suis dans une phase où j'ai envie de parler, ou si je suis dans une phase où vraiment il faut pas du tout me parler, il faut me laisser tranquille,
je crois que c'est très fréquent.
Je suis dans une phase de déni quoi. Et du coup, c'est difficile de donner un conseil.
Être à l'écoute finalement.
Ouais, rester à l'écoute, rester présente si l'autre a envie de parler. Pas poser trop de questions sans doute, mais lancer des perches quoi sur le fait que c'est compliqué, que ça marche pas, etc.
Ouais, comme ça, si t'as envie d'en parler, tu peux la saisir facilement.
Ouais, pas être trop lourd non plus. Je me souviens d'un couple d'amis, du côté de mon copain. Et donc j'étais toute seule. C'était une soirée, j'étais toute seule chez eux. Et en fait, je leur ai annoncé que un autre couple allait devenir parent. Et donc, je me suis retrouvée face à des personnes qui comprenaient, enfin qui m'ont donné des, qui m'ont lancé un petit peu, qui ont fait des blagues, je vais dire un peu pesantes. Et par exemple, c'était dis donc, ça fait que 2 ans qu'ils sont ensemble. Je pensais que ce serait vous avant. Ben alors, vous n'avez pas le mode d'emploi. Je ne sais plus exactement ce qu'ils m'avaient dit.
Ouais, c'est hyper indélicat. Ouais.
Mais c'est pas mes amis directs, c'est ses amis à lui. Et que
ouais, mais
et
finalement ami ou pas, on apprend que ça se dit pas quoi. Enfin c'est ouais, bien sûr. Ouais.
Et c'est vrai que bon, ça du coup ça a permis de lancer le débat, de d'en parler aussi, parce que je suis quelqu'un qui leur en ai pas voulu en fait. Au contraire, j'aurais dit c'est vous qui êtes bête de me dire ça, enfin vous savez pas ce qui se passe là, vous savez pas.
T'as vachement bien réagi, c'est bien finalement de prendre le temps de leur expliquer pourquoi ça se dit pas. Et c'est bien parce que du coup la prochaine personne, parce que finalement l'infertilité dans les couples, ça touche un couple sur 5. Ils vont certainement en croiser d'autres couples qui galèrent, si c'est pas eux d'ailleurs. Je pense que tu as rendu service aussi à d'autres personnes. Écoute, on arrive à la fin de cet épisode. Est-ce qu'il y a un dernier mot, un dernier truc que tu voudrais nous dire avant qu'on se quitte?
Moi, je suis assez, assez stupéfaite de la solidarité qui peut se créer autour de ces difficultés-là d'avoir un enfant. J'ai découvert la communauté sur Instagram. Et je vois tellement de posts et de reposts que j'ai l'impression que vous êtes toutes amies. C'est assez assez drôle quoi. Et ça fait du bien, ça donne de l'espoir, ça permet d'avoir des gens qui nous soutiennent derrière et qui nous comprennent aussi. Mmh. Et ça permet de de créer un dialogue même avec les gens qui n'y connaissent rien, parce que nous on n'a pas forcément envie de parler de nos soucis, voilà, mais de dire ben tiens, il y a un tel qui dit ça et je le partage complètement, elle l'a dit super ouais. bien, et donc voilà, de le poster soi-même pour à sa communauté de personnes qui ne connaissent rien à l'infertilité, à la MP et tout ça, ça permet de ben d'ouvrir le débat et c'est génial. Donc voilà, j'ai envie de te remercier, de vous remercier pour toute la communauté que vous créez et qui est formidable.
Ouais, non mais voilà. Je suis complètement d'accord avec toi, c'est une communauté très accueillante, très bienveillante. Dans laquelle moi aussi j'ai débarqué il y a moins d'un an, tu vois, sur Instagram là-dessus. Et c'est vrai, t'as raison, hein, qu'on a l'impression vraiment d'être dans une grande... Le mot sororité est un peu utilisé à tort et à travers parfois sur Instagram, mais c'est vraiment ça, je trouve. Putain, c'est vraiment... Ça fait du bien, on se sent pas seul et on en a clairement besoin quand on passe par là. Écoute, je te dis un immense merci d'avoir pris le temps de me raconter ton histoire, de te confier, je sais que c'est pas facile. Je te souhaite à toi et ton copain donc bah, tout le meilleur. Tiens-nous merci. Au courant de la suite. Et puis bah ouais, à bientôt. Bonne journée.
À bientôt. Merci beaucoup.
Et voilà, c'est la fin de ce tout nouvel épisode. Un immense merci à Flo d'avoir passé cette petite heure avec nous, de s'être confié, d'avoir été si transparente. Et d'avoir été si sincère, je pense que ça nous aura fait tous énormément de bien. Si vous souhaitez soutenir le podcast, si vous souhaitez me soutenir dans ce projet, rendez-vous sur Apple Podcasts. Vous le savez, que vous ayez un iPhone ou même juste un Mac, vous pouvez mettre 5 étoiles au podcast et lui mettre un petit commentaire, c'est toujours sympa et ça nous aide vraiment à gagner en visibilité. Pour continuer la conversation sur cet épisode, retrouvez la vignette de l'épisode sur Instagram ou Facebook et venez en discuter avec nous. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. À bientôt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.